J'aimerais vous raconter une petite histoire. Il y a quelques années, je vivais à côté d'une grosse caserne de chasseurs alpins. Et puis, voilà ce qui s'est passé à cette caserne. Il y avait un soldat qui montait la garde à l'entrée. Et c'est une caserne où il y avait d'énormes grilles. Et lui était à l'intérieur de la caserne. Et donc, il était en uniforme. Il avait son FAMAS, le fusil d'assaut, en travers de la poitrine. Et il était là, et puis un homme s'est approché, donc de l'autre côté de la grille, et là, il a sorti un couteau et il lui a dit « Donne-moi ton fusil !» Et qu'est-ce qu'a fait ce chasseur alpin? Il a paniqué, il a enlevé son fusil, il l'a mis à travers la grille, et l'homme est parti avec. Oh ! En fait, ce soldat était un jeune appelé, à l'époque, il y avait encore le service militaire. En plus, il faut savoir qu'en général, les appelés, quand ils montent la garde, leur fusil, il n'y a pas de balle dedans. Et en fait, donc, il était là, il a paniqué, parce que de toute façon, vu la hauteur des grilles, il ne risquait pas grand-chose. Et il a donné son fusil. Et donc, l'homme est parti avec un fusil d'assaut, tout neuf, en parfait état de marche. Certainement que les choses auraient été différentes si, au lieu de ce jeune appelé, il y avait eu d'autres soldats qui avaient participé à la première guerre en Irak, parce que ce régiment-là est un régiment assez particulier également, et plusieurs des soldats étaient partis faire la guerre en Irak. Et il y avait donc des soldats aguerris dans cette caserne, et certainement qu'avec eux, cette intimidation ne se serait pas passée. En tout cas, ils n'auraient pas donné leur fusil, mais auraient plutôt été combatifs et certainement même auraient arrêté cet homme. Ce matin, nous allons parler de guerre et de combat. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Ancien Testament, au livre des Juges et au chapitre 3. Si vous n'avez pas dit, vous pouvez emprunter au fond les Bibles blanches. Et si jamais c'est le cas, c'est pratique. Il vous suffit de l'ouvrir à la page 171 pour tomber sur Juges 3. Voilà le contexte du passage que nous allons lire. Le peuple de Dieu a passé 40 années dans le désert. Et là, le peuple de Dieu vient de rentrer dans le pays de Canaan. Mais ce pays est déjà occupé par divers peuples qui ont commis tellement d'atrocités que Dieu a décidé de les faire totalement disparaître pour mettre son peuple à leur place. Et sous la conduite de Josué, l'homme que Dieu a désigné pour conduire cette conquête, le peuple de Dieu est allé combattre ces peuples idolâtres et cruels qui habitaient le pays. Et parce que le peuple de Dieu s'est montré fidèle, Dieu lui a accordé la victoire dans ses combats, alors que les peuples en place, habitaient souvent des villes fortifiées et étaient en plus grand nombre qu'eux. Au bout d'environ 25 ans, le pays est presque entièrement conquis, mais Josué vieillit et il finit par mourir de vieillesse. Et après sa mort, le peuple cesse de faire la guerre. Le temps passe, et tous les anciens qui avaient combattu pour la conquête du pays de Canaan vieillissent et meurent à leur tour. Et il ne reste maintenant dans le pays que les générations de ceux qui n'ont jamais connu la guerre. Je commence ma lecture au chapitre 3, verset 1. Voici les nations que l'Éternel laissa tranquilles pour mettre à travers elles les Israélites à l'épreuve, tous ceux qui n'avaient pas connu les guerres de conquête de Canaan. Il voulait seulement que les générations des Israélites, ceux qui ne l'avaient pas connu auparavant, connaissent et apprennent la guerre. Ces nations étaient les suivantes, les cinq princes des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens et les Héviens qui habitaient la région montagneuse du Liban, depuis le mont Baal-Hermon, jusqu'à l'entrée de Hamat. Elles servirent à mettre les Israélites à l'épreuve, afin que l'Éternel sache s'ils obéiraient au commandement qu'il avait prescrit à leurs ancêtres par l'intermédiaire de Moïse. Ce texte peut, dans une première lecture, nous sembler un peu étonnant. Parce que la volonté de Dieu est que son peuple prenne possession du pays de Canaan. C'est même le commandement que Dieu a donné à son peuple. Et Dieu est intervenu à de nombreuses reprises pour que son peuple remporte la victoire sur ses ennemis. Nous pourrions donc penser que les diverses interventions de Dieu ont pour but de faire disparaître les ennemis de son peuple. Eh bien, notre texte nous montre que ce n'est pas le cas. Verset 1, « Voici les nations que l'Éternel laissa tranquilles. » Dieu aurait pu utiliser sa toute-puissance pour anéantir ses ennemis, mais il ne l'a pas fait. Au contraire, il a laissé ses ennemis tranquilles, il les a volontairement laissés subsister. Les interventions de Dieu n'ont pas pour but de faire disparaître les ennemis du peuple. Si jamais c'était le cas, puisque Dieu est tout-puissant, cela ferait déjà des millénaires que les ennemis du peuple de Dieu auraient disparu. Les interventions de Dieu n'ont pas pour but de faire disparaître nos adversaires, parce que Dieu veut nous amener à combattre. Les interventions de Dieu ont pour but d'amener chaque membre de son peuple à combattre pour lui. Verset 2, « Il voulait seulement que les générations des Israélites, ceux qui ne l'avaient pas connu auparavant, connaissent et apprennent la guerre. » Alors il ne s'agit pas bien sûr de n'importe quelle guerre. La guerre dont il est question ici désigne uniquement les guerres que Dieu lui-même nous demande de livrer. Et qui est le peuple de Dieu maintenant? Le peuple de Dieu, c'est tous ceux qui appartiennent à Dieu. Ce sont ceux qui ont été rachetés par le sacrifice de Jésus, ceux en qui Dieu demeure par son esprit, c'est-à-dire les chrétiens, les disciples de Jésus. Eh bien, si jamais nous faisons partie du peuple de Dieu, nous devons être conscients que la volonté de Dieu est que nous connaissions la guerre. Pas la guerre humaine qui est la conséquence du péché, mais la guerre spirituelle, la guerre qui vient de Dieu, la guerre contre le péché et ses manifestations. Et la seule paix à laquelle nous pouvons nous attendre, c'est la paix avec Dieu. Nous sommes en paix avec Dieu. Mais parce que nous sommes en paix avec Dieu, parce que nous lui appartenons, alors Dieu va faire en sorte que chacun de nous connaisse la guerre spirituelle. Et pourquoi Dieu fait-il en sorte que chaque membre de son peuple connaisse la guerre? Versets 1 et 4. Pour mettre son peuple à l'épreuve. Et les combats auxquels nous allons devoir faire face, les diverses épreuves que nous allons affronter ont un but, mettre en lumière si nous sommes fidèles ou infidèles à Dieu. Verset 4, « C'était afin que l'Éternel sache s'ils obéiraient au commandement qu'il avait prescrit, que Dieu fait en sorte que son peuple connaisse la guerre. » Nos combats sont donc destinés à éprouver notre obéissance. Les combats, les tentations, les épreuves par lesquelles Dieu nous fait passer ont pour but de tester notre obéissance à sa volonté. Parce que c'est seulement en situation réelle que se manifestera si nous sommes réellement prêts à accomplir la volonté de Dieu. Parce que tant que nous ne sommes pas confrontés à l'épreuve, nous n'avons aucune difficulté à dire et à croire des choses comme « Moi, j'obéis à Dieu. Jésus est mon Seigneur. Il est mon roi, mon maître. » Mais est-ce que c'est bien vrai? Est-ce que nous ne trompons pas nous-mêmes en pensant cela? Il n'y a que l'épreuve du combat qui va mettre en lumière si réellement nous sommes prêts à accomplir la volonté de Dieu. Vous savez, c'est un peu comme la différence qu'il y a entre les jeux vidéo et la vraie vie. Il y a actuellement beaucoup de gens qui jouent à des jeux de guerre virtuels grâce à des consoles de jeux ou en ligne. Voilà. Ils font la guerre comme ça. Et en plus, ça fait des graphismes tellement réalistes qu'on dirait des films. Ça, c'est pas un film, c'est des images de synthèse. Et dans ces jeux, ces gens qui jouent à combattre, en règle générale, ce sont quoi? Des lâches? Non. Ils sont très courageux. Ils n'hésitent pas à obéir aux ordres qui vont les conduire à obéir, à accomplir des missions très dangereuses. Et peut-être que parmi ces joueurs, parmi ces guerriers virtuels, Il y en a qui s'imaginent être de grands héros, des soldats courageux, prêts à obéir aux ordres les plus dangereux afin de gagner la guerre. Ça, c'est ce qu'ils imaginent. C'est comme ça qu'ils se voient. Mais seront-ils toujours des héros si un jour ils sont confrontés à une véritable guerre, celle-ci, et qu'ils doivent passer par l'épreuve du feu? Des héros imaginaires découvrent parfois que lorsqu'ils sont réellement engagés dans des combats, ils n'osent pas se battre, mais préfèrent protéger leur vie. C'est ce que faisait cet homme qui se cache par rapport à ses ennemis. Alors que d'autres personnes, des personnes souvent ordinaires en temps de paix, deviennent de véritables héros en temps de guerre parce qu'ils s'engagent totalement dans un juste combat au mépris même de leur vie. Alors cette femme que vous voyez là, elle s'appelle Irena Sendlareva, c'est ça Marc, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est une infirmière qui a sauvé 2500 enfants juifs en réussissant à les faire sortir clandestinement du ghetto de Varsovie. Elle avait un laissez-passer pour pouvoir accéder à ces personnes. Et elle, à chaque fois qu'elle rentrait, elle s'organisait pour en faire sortir 2500 enfants. Et probablement qu'en temps de guerre, elle aurait été une infirmière ordinaire. C'est seulement en situation réelle de combat, de lutte et de tentation que va se manifester, si nous sommes réellement au fond de nous, quelqu'un qui obéit à Dieu ou pas. Et c'est pour cette raison que Dieu veut que chacun de ses enfants passe par l'épreuve de la guerre et des combats, afin que se manifeste si réellement nous sommes prêts à lui obéir, à le suivre, et afin aussi de nous offrir l'opportunité de ressembler de plus en plus à Jésus, penser, agir et être comme Jésus. Nous devons donc, tous sans distinction, nous attendre à devoir mener des combats, puisque c'est la volonté de Dieu. Mais attention, ne nous trompons pas de combat, parce que s'il existe de bons combats, il en existe aussi de mauvais. Timothée est un jeune pasteur qui est confronté à toutes sortes de difficultés et à de nombreux combats. Et Paul lui écrit en 1 Timothée 6, 12, « Combat, le bon combat de la foi. » Il y a de bons combats qui viennent de Dieu. Et il y a de mauvais combats, des combats qui ne viennent pas de Dieu, qui ne sont pas motivés par Dieu et qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu. Mais nous, de notre côté, nous devons nous engager dans de bons combats, les combats qui viennent de Dieu. Alors comment discerner les combats qui viennent de Dieu? Grâce à la parole de Dieu, la Bible. La parole de Dieu nous révèle la volonté de Dieu pour notre vie. Et cette volonté de Dieu est exprimée soit de manière positive dans la Bible, comme quelque chose que nous devons rechercher pour notre vie, amour, justice, sainteté, bonté, fidélité, honnêteté, droiture, courage, pureté, pardon, bienveillance, soit exprimée de manière négative, comme quelque chose que nous devons rejeter de notre vie. L'injustice, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, le vol, l'envie, l'ivrognerie, les excès, la soif de posséder, la grossièreté, l'orgueil, la médisance. Et c'est par rapport à ce qu'il nous a fait connaître de sa volonté que Dieu veut éprouver notre obéissance. Et c'est en obéissant aux généralités contenues dans la parole de Dieu que nous saurons que faire dans notre situation particulière. Parce que des fois, on est là pour dire « Oui, mais moi, je ne sais pas ce que Dieu attend de moi. » Je n'ose pas dire 100% des fois, mais peut-être 99, je ne sais combien de fois. Si jamais nous commencions par mettre en pratique ce que Dieu nous dit de sa volonté dans sa parole, nous saurions quoi faire dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Dieu nous place en diverses situations. Et là, Dieu nous dit, mais dans cette situation-là, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu m'aimes suffisamment pour obéir à ma volonté? Nous devons nous engager dans les bons combats que Dieu a mis devant nous. Mais il est aussi important d'une chose, nous devons également combattre de la bonne manière. Parce que parfois, nous pouvons mener un bon combat, c'est-à-dire un combat qui est juste aux yeux de Dieu, mais pourtant, nous menons ce bon combat d'une mauvaise manière, une manière qui déplaît à Dieu. Voilà par exemple l'avertissement qui nous est adressé en Romains 12, 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Combattre contre le mal est un bon combat. Mais attention, il n'y a qu'une seule manière de triompher du mal, c'est par le bien. C'est-à-dire, c'est par l'obéissance à la volonté de Dieu, c'est par l'obéissance à ce que Dieu lui-même considère comme bien. Ce n'est pas nous qui définissons ce qui est bien ou ce qui est mal, c'est Dieu qui définit ce qui est bien et ce qui est mal. Avec Dieu, il n'y a pas que le résultat qui compte. Ce qui compte avant tout, c'est la manière par laquelle nous allons chercher à accomplir la volonté de Dieu. Si je combats le péché en commettant moi-même un péché, ou si pour arriver à ce qui est bien, je commets un péché, alors je ne suis pas sorti victorieux de mon épreuve, car j'ai désobéi à Dieu. Rappelons-nous. Pourquoi Dieu met-il chacun de nous face à des combats, des luttes? Parce qu'il a besoin de nous pour éliminer le mal? Est-ce que nous croyons vraiment que Dieu ait besoin de nous pour éliminer le mal? Non. Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu n'aurait qu'à faire ça pour que ses ennemis disparaissent. Dieu ne nous met pas en situation de combat parce qu'il aurait besoin de nous pour arriver à ses fins. Mais Dieu nous met en face de certains combats parce qu'il veut éprouver notre obéissance. Et notre obéissance à sa volonté concerne deux aspects. Obéir en combattant, mais plus que ça, obéir en combattant à la manière de Dieu, de la bonne manière. Et la manière par laquelle Dieu veut que nous combattions est parfois très différente de ce que nous aimerions faire. Par exemple, face à nos ennemis, nous aimerions peut-être employer la manière forte, comme Dieu l'avait ordonné à l'époque des juges, le texte que nous avons lu. Mais à nous, dans notre situation, nous qui sommes disciples de Jésus, Dieu nous ordonne de procéder d'une toute autre manière. Et cette manière n'est pas naturelle du tout. On a entendu tout à l'heure quelqu'un prier pour cela. Voilà ce que Jésus dit à ses disciples en Matthieu 5, 44. « Moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous persécutent, priez pour ceux qui vous maltraitent, afin d'être les fils de votre Père céleste. » Dieu ne nous demande pas simplement de mener de justes combats, Dieu nous demande aussi de combattre de la bonne manière, c'est-à-dire de respecter en tout point sa volonté. Ce qui importe dans les combats que nous menons, c'est d'obéir à Dieu. Le résultat de notre combat, ça appartient à Dieu. Ça, c'est la responsabilité de Dieu. C'est lui qui définit les règles, c'est lui qui est le Tout-Puissant. Mais nous, de notre côté, notre responsabilité et ce que Dieu attend de nous, c'est que nous lui obéissions fidèlement. Nos combats sont des épreuves et notre obéissance révèle là où nous en sommes avec Dieu. Tout chrétien est confronté à des luttes et ce sera le cas tout au long de notre vie. Parce que la conséquence de notre paix avec Dieu, c'est que nous sommes rentrés en guerre contre le péché. Et tout au long de notre vie, notre fidélité à Dieu, notre obéissance à sa volonté, va être éprouvée par Dieu. Nous ne devons donc pas nous désoler de ces épreuves, mais au contraire, nous devrions être reconnaissants pour ces épreuves que Dieu met devant nous. Parce que ces épreuves nous permettent de prendre conscience de là où nous en sommes avec Dieu, et chacun de nos combats se transforme alors comme une opportunité de nous rapprocher encore plus de Dieu. Dieu veut que nous sachions bien là où nous en sommes avec lui, parce que Dieu veut également que nous sachions comment nous approcher de lui. Si vous refusez de combattre, si vous refusez d'obéir à la volonté de Dieu, alors les choses doivent être claires pour vous. Vous croyez peut-être en Dieu, mais en tout cas, Dieu n'est pas votre Seigneur. Si jamais c'est votre cas, ne restez pas loin de Dieu, parce que pour l'instant, votre foi est morte, et vous aussi. Changez d'attitude, venez à Jésus, reconnaissez-le comme le Seigneur de votre vie, et alors il deviendra également votre Sauveur. Si vous avez commencé à vous battre, mais que par la suite vous avez désobéi à Dieu, vous avez peut-être perdu une bataille, mais ne perdez pas la guerre. Relevez-vous et venez à Jésus qui vous attend et qui est prêt à vous pardonner. Reprenez courage, relevez-vous et cherchez à nouveau à accomplir la volonté de Dieu. Et si vous êtes actuellement en plein combat, n'oubliez pas que Jésus se tient à vos côtés. Il vit en vous, il vous précède, il vous soutient. Et promesse de Jésus, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Persévérez dans votre lutte, demeurez attachés fermement à Christ, car il vous accordera la victoire. Jésus est celui qui est venu nous libérer du péché. Il est venu nous donner la victoire sur le péché. La victoire est au bout de la lutte. Et lorsque la victoire est là, quelle joie, quel encouragement dans notre marche avec Dieu, quelle libération du péché, quelle formidable nouvelle vie nous venons. C'est formidable d'avoir été libéré du péché, que quelque chose qui pour nous était une lutte avant n'en est plus une maintenant. Nous sommes libres. Nous expérimentons alors la fidélité, la puissance de Dieu, qui, après nous avoir soutenus dans notre lutte, nous a libérés du péché. Et qu'est-ce que ça fait tout ça? Ça nous encourage et ça nous prépare à nous engager dans de nouveaux combats en lui obéissant en toutes choses. Parce que c'est ça la marche avec Dieu, hein. C'est une succession de combats, c'est une succession de victoires sur le péché qui nous amène à ressembler de plus en plus à Jésus. Mais soyons bien conscients d'une chose, nous ne connaîtrons pas la victoire si d'abord nous ne connaissons pas la guerre. Dieu ne nous accordera pas la victoire sur le péché si jamais nous ne nous sommes pas déjà engagés à combattre contre le péché. Et il n'y a qu'une seule manière de connaître la victoire, c'est d'obéir en tout point, en toute chose, à la volonté de Dieu. C'est-à-dire, c'est avoir Jésus pour Seigneur. Quels sont les combats que Dieu vous demande de mener aujourd'hui, dans votre situation? Quels sont les domaines de votre vie où vous connaissez la volonté de Dieu, mais sans y obéir? Quels sont les domaines de votre vie où vous ne ressemblez pas à Jésus? Quels sont les domaines de votre vie où Dieu est en train d'éprouver votre obéissance? Quels sont les combats contre le péché que Dieu vous demande de mener aujourd'hui? Je vous laisse un temps de méditation silencieuse. Je conclurai ce moment par la prière. Seigneur de vivant, merci car tu es venu à notre rencontre afin de nous chercher et de nous sauver. Mais maintenant tu nous demandes de te suivre, tu nous demandes de t'obéir, tu nous offres ta vie, si en retour nous t'offrons la nôtre, pour que tu en sois le Seigneur. Seigneur, éclaire-nous sur les domaines de notre vie où nous ne te ressemblons pas encore. Seigneur, donne-nous du courage pour combattre et bénis, Seigneur, tous ceux qui se sont engagés dans la lutte contre le péché de leur vie, ceux qui veulent être fidèles. Merci, Seigneur, pour eux. Fortifie-les, conduis-les, guide-les, soutiens-les. Et merci, Seigneur, parce que la vie que tu nous appelles à vivre n'est pas une vie sous la domination du péché, mais une vie libérée du péché. Tu nous appelles à devenir des hommes et des femmes libres. Mais pour cela, il nous faut accepter le combat. Il nous faut te suivre, te faire confiance. Et merci car tu nous as promis la victoire. Gloire te soit rendue, Seigneur. Amen.